Vous écoutez RTL.
RTL 9h01. Je vous donne les pronostics de Bernard Glace pour les courses à Maison Lafitte. Le 2, l'As, le 16, le 10, le 9, le 11, le 5 et le 8. Le 2, l'As, le 16, le 10, le 9, le 11, le 5 et le 8. Dernière minute, l'As Bagherati. Notre météo à 7 jours en quelques mots, Louis Baudin.
Oui, avec beaucoup de choses au cours de cette semaine. Tout d'abord, donc, cette évolution orageuse maintenue pour aujourd'hui et demain. Ça sera quasiment la même chose, donc on oublie. Mais à partir de mercredi, ça commence à s'améliorer dans la moitié nord. Enfin, on va changer de masse d'air. Donc, fini ces épisodes orageux à répétition. Mercredi, ça commencera dans la moitié nord avec le retour d'un temps sec et ensoleillé. Encore quelques averses dans le sud des Pyrénées aux Alpes. Ça ira mieux également près de la Méditerranée. Tout cela avec des températures un peu fraîches pour la saison. Et puis, pour jeudi et vendredi, on retrouvera des conditions anticycloniques avec un temps plus sec, plus stable. Peut-être quelques averses en montagne l'après-midi. Des températures qui repartiront à la hausse. Samedi, on aura peut-être un petit passage nuageux et pluvieux. Puis de nouveau, à partir de dimanche, l'anticyclone devrait s'imposer avec lui enfin ce temps plus stable, plus ensoleillé et plus doux que l'on attend depuis des semaines.
Vous êtes bien sur RTL. RTL, première radio de France.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Il est 9h03, excusez-nous pour ce retard. Bernard Lehu, bonjour. On va directement parler littérature. Allez, un livre, ça peut aussi s'écouter. Le livre audio Resté longtemps confidentiel est en fait en train de devenir une véritable tendance.
Mais oui, les ventes ont augmenté de plus de 40% l'an dernier. Et un signe ne trompe pas, les gros succès de librairie désormais sortent quasi simultanément en version audio. Exemple, les nouveaux Guillaume Musso et Marc Lévy sont déjà disponibles en version lue.
La jeune fille et la nuit, de Guillaume Musso, lu par Rémi Bichet. Sophia Antipolis, samedi 13 mai 2017. Je garais la voiture de location sous les pins, près de la station-service, à 300 mètres de l'entrée du lycée.
Lizzie présente Une fille comme elle de Marc Lévy, lu par l'auteur.
Marc Lévy, donc, lecteur de son propre roman chez Lizzie, c'est la dernière marque de livres audio créée la semaine dernière par le numéro 2 français de l'édition, le groupe Editis. Mmh. Autre signe de la vitalité de ce marché, près d'un Français sur cinq a déjà écouté un livre sur CD ou sur fichier numérique, un mode d'utilisation en plein essor grâce notamment à la généralisation des smartphones. Marie-Christine Conchon et Julie Cartier, les deux responsables de Lizzie, éditeurs donc de Marc Lévy, et aussi de Jean Tellet, Michel Bussy ou encore Franck Tillier.
Et nous observons une totale révolution dans la consommation de biens culturels, hein, et notamment avec l'explosion littéralement du digital. Hein, et nous avons la conviction que le livre audio a toute sa place, hein, dans ce changement.
C'est un marché qui s'est ouvert en termes de public, puisqu'il n'est plus réservé aux personnes âgées ou aux personnes malvoyantes, mais au contraire, c'est vraiment un public complet, les hommes, les femmes, les sédentaires, les nomades, les lettrés, les moins lettrés.
Alors ce succès grandissant des livres audio peut-il s'expliquer également par leur plus grande qualité ?
Sans aucun doute, lecture par des comédiens de renom, habillage sonore comme pour entrer dans la danse, le dernier roman de Jean Tellet, lu par Alexandre Astier, le créateur de la série Kaamelott.
Ouais.
Mais ce qui plaît encore plus, ce sont les auteurs capables de lire leurs textes. Daniel Pénac est l'un des pionniers du genre. Petit extrait de son dernier livre, Mon frère, un hommage à son frère Bernard, disparu. Ça, c'est un CD de la collection Écoutez lire chez Gallimard.
16 mois plus tard, il me manquait encore quotidiennement, mais il s'invitait souvent, avec tact, je dois dire. Il s'installait discrètement en moi, mon cœur n'accusait plus le coup. Les larmes ne me venaient plus. Mon frère débarquait à brûle-pourpoint et mon chagrin avait cessé de le rejeter. L'émotion se faisait accueillante. Je l'acceptais en l'état.
Autre écrivain très à l'aise dans cet exercice, Pierre Lemaître. Il lit Couleur de l'incendie chez Audiolib. Ça, c'est la filiale livre audio du leader de l'édition française Hachette.
Léonce, la dame de compagnie de Madeleine, s'approcha d'André Delcourt, le précepteur de Paul, qui prenait fiévreusement des notes sur un petit calepin, et lui demanda de s'enquérir de son jeune élève. Il la regarda, offusqué. « Mais Léonce, vous voyez bien que je suis occupé !» Ils ne s'étaient jamais aimés, ces deux-là. Rivalité de domestique. « André, répondit-elle, vous serez sans doute un grand journaliste un jour, je n'en doute pas, mais pour l'heure, vous n'êtes encore que précepteur, alors allez chercher Paul. »
Voilà, Pierre Lemaître qui fait plus que lire, il interprète vraiment son texte « Couleur de l'incendie », son dernier roman, publié chez Audiolib. Alors vous l'avez compris, cet été, lisez ou écoutez des livres, essayez dans la voiture, c'est formidable.
Vous faites les deux, puisque ça fait des années que vous leur faites lire à ces gens qu'on vient d'entendre, justement, ces auteurs, des extraits de leurs livres sur notre antenne.
Parfois, donc, ici, bah oui, ben ça arrive.
On va s'intéresser maintenant, merci beaucoup Bernard Lehu, excusez-moi, à nos audiences du week-end avec Médiamétrie, Isabelle Morini-Bosque, et puis un petit coup de perceuse, comme d'habitude le lundi derrière.
C'est ça. C'est pas moi. Téléphone ne déchante pas vendredi puisque la chanson de l'année est en tête grâce aux 3 810 000 téléspectateurs qui ont privilégié la une devant la rediff de Candice Renoir. Samedi, la première chaîne est évidemment toujours en tête puisque 7 300 000 amoureux du foot étaient devant France-USA, 37% du public. Le deuxième n'est d'ailleurs pas Nagui mais le sang de la vigne sur la 3. Quant à hier, c'est encore du foot, c'est encore TF1 qui creuse l'écart grâce à 98 secrets d'une victoire, le doc retraçant l'épopée des Bleus le 12 juillet 98.
Et mon Isabelle a terrassé la perceuse, c'est formidable. Dans un instant, nous serons avec Steven Bellery et évidemment, on va s'intéresser à l'actualité musicale. A tout de suite.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Yves Calvi.
Avant de parler musique, je vous donne en chiffres les résultats que nous donnait il y a quelques instants Isabelle Morini-Bosse. C'est 4 800 000 téléspectateurs pour le Margoton et le documentaire consacré à France 98 qui a été diffusé hier soir sur la Une. Alors la musique, 2 ans après l'album Mammifère, Christophe Miossec est de retour. Steven Bellery, bonjour.
Bonjour à tous.
Le Brestois vient de dévoiler le premier extrait de son 11e album studio.
Oui, depuis le choc Boire en 1995, Miossec publie un album de chansons inédites tous les 2-3 ans. Une régularité que je vais faire remarquer en préambule.
C'est vrai que je fais plus que de la musique, donc c'est mon seul et unique métier. J'écris pas de bouquins, je fais pas de films, j'ai que ça à faire. Donc tout mon temps s'engouffre là-dedans et c'est du plaisir. Ah, de plus en plus même, à vrai dire, parce que plus le temps passe, plus on voit l'horizon se rétrécir en fait. Et plus qu'on a à dire, on soupèse un peu plus ce qu'on raconte.
Christophe Miossec publiera fin septembre un disque intitulé Les Rescapés, un mot qu'on retrouve dans le tout premier extrait que l'on découvre ce matin, une chanson intitulée Nous sommes, que Miossec présente pour RTL.
Comme le titre l'indique, ça parle de nous. C'est sur ce quoi on vit, en fait, et ce sentiment apocalyptique sur le climat, sur la Terre, comment elle va, sur la démographie, en fait. Et donc, les prévisions sont assez catastrophiques. On ne peut pas être chanteur sans être imperméable à ce qui se passe autour. J'ai un peu emprunté à René Char qui disait que la vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Ouais, on continue comme si de rien n'était, parce qu'on tient notre bonheur à notre confort de vivre.
On n'a plus le temps de regarder comme ça le niveau de l'eau. On n'a plus le temps car on est déjà tout éclaboussé. On n'a plus le temps d'attendre que l'orage soit passé. On n'a plus le temps même si sous la pluie on sait danser.
Enfin, j'ai 54 ans et rien que le fait de pouvoir en parler là au micro, je me sens rescapé de pas mal de choses dans ma vie. C'est cette façon de survivre à pas mal de pépins, que ce soit de santé ou autre en fait. C'est le fait de rester en vie. Vu que c'est une histoire de temps, je voulais que ça soit précipité. On n'a pas le temps, on n'a même pas le temps pour chanter.
Miossec, le Breton, m'a confié qu'il y aurait dans son album une chanson sur la mer et ses dangers et une autre sur les infidèles. Miossec repartira en tournée dès le 29 septembre.
Joli cadeau à présent, on vous offre des places pour venir assister au grand studio du groupe Indochine.
Et oui, pour la première fois, Indochine viendra se produire dans les locaux de RTL, un événement qui se déroulera ici à Neuilly-sur-Seine. Le mercredi 20 juin à 20h, le groupe en profitera pour fêter le succès de sa tournée. Déjà 450 000 billets vendus, il cartonne aussi au rayon disque avec son 13e opus intitulé 13 et paru en septembre dernier.
Alors, pour vivre ce concert-événement dans le grand studio RTL, il faut être libre le 20 juin au soir, vérifier votre agenda et répondre à la question que vous pose tout de suite Monsieur Bellery.
Comment s'appelle le chanteur d'Indochine ?
C'est très difficile. Réponse au 32-10, ce concert sera diffusé le samedi 30 juin à 15h dans le grand studio RTL. Merci beaucoup Steven Bellery. Isabelle Morini-Bosque, la télévision maintenant. Vous savez que j'aime le meilleur pâtissier. Lundi dernier, les pros devaient cuisiner la pomme. Et ce soir?
Ce soir, ils ont la banane. J'entends par là qu'ils doivent d'abord préparer un dessert à base de banane, même que l'une des quatre brigades en fait trop et en rajoute, selon le juge Cyril Lignac.
Moi, ça, je ne le mets pas dans mon dessert. Ça sert à quoi? Il y a déjà de la banane partout.
Ouais.
Même moi, je vais me transformer en banane. Si tu fais une bouillabaisse, tu ne mets pas tout le poisson du port de Marseille.
Voilà, c'est vrai, il m'amuse toujours. Le concours de pâtisserie est en face d'Excellent Polar, Le Tunnel sur Canal+, Esprit Criminel sur la 1 et ma série fétiche Major Crime sur la 2 avec, vous savez, ces vieux flics sympas comme l'italo-américain Provenza, un bon vivant que la victime, un certain Thomas Palmer, intéresse fort peu.
Oh, quelle bonne nouvelle, c'est merveilleux, merci beaucoup.
Ce sont les résultats des empreintes trouvées sur la voiture de Palmer.
Ah non, j'étais au téléphone avec mon boucher. Il a promis de me mettre de côté un jambon rôti. J'ai réussi à le convaincre de m'en garder. J'ai demandé à la scientifique d'envoyer les résultats à Amy.
Selon le département des ressources humaines où M. Palmer travaillait, il y a eu 2 plaintes déposées contre lui au sein de sa boîte. L'une est interne à sa société, on l'accuse de faire des blagues et de déplacer de nature sexuelle apparemment.
J'espère que t'as pensé à noter les blagues. Enfin, c'est juste pour savoir à quel point elles sont provocantes.
Votre jambon vous attend, ne l'oubliez pas.
Voilà, sur la 2, 21h, c'est une série MacGyver qui a réchappé à tout, au changement de titre et tout, j'aime beaucoup cette fiction.
Dès qu'on dit jambon rôti, je vois que vous êtes contente. Alors, vous avez également apprécié le doc produit par BFM TV sur le couple Johnny-Laetitia.
Oui, qui est diffusé à 21h ce soir, 20h50. Comment vous dire que j'ai commencé à le regarder par conscience professionnelle plus qu'autre chose, sans enthousiasme véritable, hors bonne surprise. Ce doc n'est pas le doc de trop, il est suffisamment contrasté, honnête, équilibré, sensé et sensible pour que chacun puisse se faire une opinion, voire revendiquer le fait de ne pas en avoir. Et c'est vraiment très bien, tout est évoqué, rien n'est éludé. Le Johnny très jaloux mais très infidèle, attachant, complexe, complexé, qui par exemple un jour surpris avec une apprentie chanteuse à Miami alors qu'il part en croisière avec Laetitia, fait enlever tous les kiosques, tous les voici dans les kiosques. La déception de Laura pensant avoir trouvé une copine à l'arrivée de Laetitia et se découvrant une rivale. Et puis bien sûr, la Laetitia éperdument amoureuse mais marquant la différence dès le départ, plaçant ses intimes. Elle reste debout dans toutes les tempêtes, de plus en plus indispensable à Johnny. Souvenons-nous, 8 ans après leur rencontre, de l'accusation de viol d'une jeune femme intendante sur un yacht de luxe, le calme de Laetitia impressionne l'avocat de Johnny.
Pour elle, c'était une humiliation mais viscérale. Mais elle n'a pas bougé, elle n'a pas bronché. Elle était là, fidèle au poste. Pour une jeune femme de 30 ans, rester comme ça, soutenir, accompagner, dans la souffrance souvent, son épouse, c'est assez exceptionnel. Ça m'a véritablement estomaqué.
On suit également au fil des années la dégradation des rapports entre les deux aînés de Johnny et Laetitia. L'un des témoignages les plus touchants, c'est sur des images absolument inédites, celui de Frédéric Bédé lors de la soirée anniversaire des 10 ans de mariage de Johnny et Laetitia. L'écrivain éditeur, alors compagnon de Laura, se souvient.
Moi, je suis à la table de Laura et David avec sa femme. Et puis Johnny fait un discours. Une déclaration d'amour à sa femme, ce qui est tout à fait normal. Ils fêtent leurs 10 ans de mariage et il dit « Merci Laetitia, je t'aime et tu m'as en plus, tu m'as donné mes 2 filles. » Et pas un mot sur David et Laura. Et moi, je suis à leur table et je peux vous dire que c'est vraiment un coup de massue. C'est vraiment un moment très, très violent, quoi, très, très étrange.
Elle réagit comment, Laura, à ce moment-là ?
Elle voulait partir tout de suite. On est d'ailleurs pas resté très très longtemps après.
Voilà, la suite ce soir sur BFM Télé, c'est un très bon document.
Là, c'est moi qui viens de le prendre, le coup de marteau. Hein. Merci beaucoup. On va se retrouver dans quelques instants avec Sophie Orange pour aller au musée d'art, des arts décoratifs. Vous verrez, il y aura du beau monde, un peu de Picasso, du Dali, du Ernst, Braque et du Buffet. Allez,
en vrac.
Allez, Buffet pour tout le monde.
RTL Matin, laissez-vous tenter. Avec Yves Calvin.
À 9h21, Sophie Orange, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Vous nous faites donc découvrir ce matin des Picasso, Dali, Calder, Max Ernst, Georges Braque ou Dubuffet. Pas des tableaux, mais des bijoux cette fois-ci. Oui. C'est ça qui est très original et c'est une exposition étonnante, comme assez souvent d'ailleurs au musée des arts décoratifs à Paris.
Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que ces bijoux appartiennent quasiment à une seule femme, Diane Venet, qui en possède 230. Diane Venet, c'est clair, femme du sculpteur Bernard Venet, pour qui tout commence il y a 30 ans.
Cette collection a commencé par une histoire d'amour, par un cadeau, par celui qui devait devenir mon mari, qui m'a roulé une balle d'argent autour du doigt. Début d'une collection, parce qu'ensuite il m'a donné un bijou d'Armand, et puis un bijou de César. Et puis après j'ai continué, je me suis dit que ces miniatures étaient des œuvres.
Des chefs-d'œuvre, même, ah oui. Comme cette bague qui ouvre la collection absolument magnifique, superbement éclairée dans son écrin. Diane Venet a donc reçu des cadeaux de son mari. Elle a aussi acheté des pièces à d'autres collectionneurs, dans des galeries, à des ventes aux enchères. Elle recherche en permanence, c'est simple, les plus belles pièces. Mais parfois, ce sont les artistes eux-mêmes qui offrent un bijou à Diane Venet.
Calder a fait énormément de bijoux lui-même. Il façonnait le laiton, doré ou argenté. La chose formidable, c'est que moi, je l'invitais à dîner. Je m'appelle Diane. Il arrivait avec une initiale en forme de dé. C'est quelqu'un d'extrêmement généreux. Il a fait 2000 bijoux. On sait peu, mais pour tous, on sait peu qui se sont penchés sur le bijou.
Et c'est ainsi que Diane Venet possède des boucles de ceinture, des colliers, des broches signées Calder. Calder qui a commencé à fabriquer des bijoux pour les poupées de sa sœur. Chacune de ses pièces est unique. Et ce qui est assez rare, c'est qu'il faisait ses bijoux lui-même sans passer par un orfèvre comme celui qu'on entend là, c'est François Hugo. Dans cette collection, l'une des plus riches du monde, Diane Venet présente également cette broche à cheveux en or et émail bleu signée Salvador Dali. C'est une montre peigne incroyable. Ou alors ces boucles d'oreilles en or. Elles sont en or, donc rubis, diamant, émeraude, en forme de, vous avez reconnu, de téléphone. Exactement.
Allô ?
Leur persistance du son qu'on porte aux oreilles. On retrouve là l'extravagance de l'artiste. Admirez également ces broches en or créées par Picasso. Il ne souhaitait pas montrer ses œuvres d'art miniature, explique la commissaire de l'exposition, Karine Lacman.
Déjà, il faut savoir qu'il y en a très peu, hein, réalisés souvent à 20 exemplaires, hein, maximum. Picasso les donnait à ses proches, à ses femmes, à ses enfants. C'était pas fait pour être vendu. Au départ, Picasso, c'était vraiment un exercice pour ses proches, ses intimes. C'était un cadeau.
Alors, ce sont des cadeaux superbes, oui. Mais ils ont une valeur inestimable.
Une valeur sentimentale aussi, hein. C'est ça qui plaît à Diane Venet. Tous ces bijoux, œuvres d'art en miniature, vous l'aurez compris, n'avaient aucune finalité commerciale, juste pour faire plaisir.
Toute cette collection, au fond, c'est une histoire d'amour et d'amitié. Moi, j'ai été touchée par le côté intime et de l'amour que ces artistes ont mis pour faire plaisir à une femme à côté d'eux, leur sœur, leur mère, leur maîtresse ou leur épouse. L'artiste y a mis tout son cœur et tout son savoir, sa volonté de faire une œuvre d'art et non pas un bijou. Bien sûr que c'est une œuvre d'art.
Il y en a 230 dans cette exposition, c'est absolument formidable. Regardez par exemple cette tête en triangle en or signée Max Ernst, ou alors une broche œil coloré Nikit Saint-Phalle. On reconnaît vraiment la marque de l'artiste. Plus récemment, cette broche de Jeff Koons. Alors lui, il n'a fait qu'un seul bijou. Vous savez, son emblème, c'est un petit lapin. Mm-hmm. Eh bien, on le retrouve ici, un bijou réalisé, une broche réalisée pour Stella McCartney et rachetée par Diane Venet. Aujourd'hui, la collectionneuse passe des commandes auprès des créateurs contemporains aux quatre coins du monde, au Mexique, en Italie, au Portugal. Mon coup de cœur, je vais vous le montrer, vous en parler. C'est ce collier créé par Jacqueline de Jong.
C'est une artiste hollandaise qui a découvert un jour par hasard qu'en laissant pourrir des pommes de terre sur une clayette au sous-sol dans sa maison de campagne, elle a vu que le germe de la pomme de terre prenait des formes absolument incroyables. Quand le germe lui plaît, elle le trempe dans un bain d'or et ça fait un bijou. Et là, j'ai un collier que j'aime énormément, que je porte et c'est drôle.
Derrière l'or, il y a une vraie pomme de terre.
Il y a une vraie pomme de terre, plus mangeable du tout, mais pomme de terre quand même.
Avouez qu'il est incroyable celui-là.
Il est incroyable, mais dites-moi, j'espère qu'elle les porte, tous ces bijoux extraordinaires, Diane Venet.
Évidemment, elle ne les laisse pas dans une boîte, ça c'est sûr.
Les bijoux vivent d'abord parce qu'on les porte, sur son corps, on les porte sur soi. J'aime bien les gros bijoux, j'assume. Je porte de l'art, je ne porte pas un bijou.
Et ça doit faire son effet. Diane Venet, très heureuse en tout cas de présenter son musée intime. 152 artistes différents, c'est rare de voir 152 artistes différents dans une exposition, dont une trentaine de femmes. Venez admirer ses bijoux jusqu'au 9 septembre, l'exposition prolongée, mais également quelques tableaux, céramiques, papier, peint et tapisserie qui répondent aux bijoux. Miniaturisation de tous les grands courants de l'art du siècle. Panorama de l'histoire de l'art.
Merci Sophie Orange. Dans un instant, les cadeaux qui vous sont distribués par Steven Bellery.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Chantonne. Alors, Indochine en concert au Grand Studio RTL, éventuellement avec Sophie Orange dans les cœurs. Pour les voir le 20 juin au soir, il fallait répondre à la question qui vous était posée par Steven. La suivante, comment s'appelle le chanteur d'Indochine?
C'est Nicolas Sirkis, évidemment. Ben voilà.
Si vous nous avez appelé au 3210, vous avez donc gagné des places pour venir assister à ce concert dans notre Grand Studio. Et vous serez accueillis avec grand plaisir et beaucoup de gens.
Ça sera diffusé le samedi 30 juin à 15h avec l'ami Eric Jean-Jean.
Formidable. Et on salue Eric Frédéric Jean-Jean. Maintenant, on n'a plus qu'à saluer Julien Courbet. Très élégant, cravate, presque un physique de survie entre le...
Oui, Nicolas, oui, là,
le Golden Boy.
Oui, exactement, le Golden Boy. Alors, je suis plus boy que golden. Hein,
ah bon,
savoir en ce moment, mais Golden Boy, oui, oui, voilà. Je suis en train de racheter le groupe M6, comme vous le savez. J'ai été à la poste ce matin voir mon conseiller. Il m'a dit que j'avais suffisamment sur mon... Sur mon PL, là, je ne sais trop quoi. Donc
vous voulez qu'on fasse un court béton, non?
Oui, exactement. Un court béton, ça serait très bien. Voilà. Bon, tout va bien cette semaine.
Très bien, oui.
Eh bien, allons-y.
C'est le week-end et on est heureux de vous retrouver.
Et allez les bleus, mon Yves. Allez les bleus.
Allez les bleus.
C'est parti.
Vous écoutez RTL.